Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées. Grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, ma formation en psychologie positive et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu es à la recherche d'un endroit sécure, bienveillant pour échanger avec des nanas qui vivent la même chose que toi et qui veulent vraiment sortir du burn-out, je t'encourage à rejoindre ma safe place, un espace d'échange et d'entraide très loin des réseaux sociaux dans lequel on se retrouve une fois par mois en visio pour échanger, partager, sortir de l'isolement et me solliciter. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Alors cette semaine, j'ai envie de te présenter Charlotte de Mimi and Cookie qui a vécu une dépression postpartum qui s'est terminée par un burn-out tout simplement. Elle nous raconte son parcours avec tellement de transparence en fait et de sincérité. J'espère que cet épisode te permettra de te rendre compte de l'importance de ta santé mentale. Je t'en dis pas plus et je te souhaite une très bonne écoute. Coucou Charlotte, bienvenue dans le Café des Burnies.
Salut Sarah.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de prendre le temps de nous partager ton vécu d'ex-Burnie au final.
C'est ça.
Et oui, et du coup, avant de commencer, je voulais un petit peu que tu nous présentes Charlotte et surtout Mimi and Cookie.
D'accord. Eh bien déjà, merci de m'accueillir Sarah.
Avec grand plaisir.
Alors Charlotte, 34 ans, je suis maman de deux petits garçons et je me suis vraiment lancée dans Mimi Cookie en 2016, en septembre 2016. Et du coup, c'est une marque de textile pour bébé qui est en coton bio, vraiment exclusivement en coton bio. Et tout est fabriqué en France, donc par moi-même ou alors avec un ESAT. C'est un établissement qui permet de réintégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail.
Donc, on peut dire que ça reste quand même une entreprise très éthique.
Tout à fait. C'était l'objectif, en fait.
Et toi, dans le salariat, ça se passait comment ?
Ça s'est bien passé, mais à la fin, tu vois, je tournais un peu en rond. On m'a un peu démise de mes fonctions dans le sens où j'étais plus que dans la créa. Ah. J'étais aussi vachement dans l'organisation. Alors, j'aime bien l'organisation. Mais en fait, il est arrivé un moment où ça a commencé à tourner en rond parce que je pouvais pas progresser plus.
Une réaction saine, on va pas se mentir. Parce que tu aurais pu rester
pour l'activité
de l'emploi parce que tu as de la reconnaissance. Et à force de tourner en rond, tu aurais pu finir en burn-out. Donc finalement, tu as eu quand même...
Carrément. Non. Ah non, mais j'aurais pété une durite, c'est sûr. Parce que déjà, quand on m'avait changé de poste, tu sais... j'ai fait 3 mois où je faisais que de l'ordinateur et que de l'orga. Et là, de toute façon, au bout de 3 mois, j'ai dit, moi, je ne tiendrai pas. Enfin, c'est pas possible, c'est pas mon métier de base.
Et aujourd'hui, ce serait quoi ta définition, toi, du burn-out ?
Alors, pour moi, burn-out, c'est un épuisement physique et psychique, quoi. Enfin, pour moi, ça serait vraiment ça, où tu es à bout de tout, en fait. Et tu ne peux plus rien faire, en fait. Tu es démotivé de tout, tu es là et tu n'arrives plus à avancer, quoi. Et t'as même plus aucune envie, en fait.
Ouais, tu fais ton salariat, sauf qu'après, voilà, ça te parle plus, tu t'arrêtes, tu te lances dans l'entrepreneuriat, donc tu crées... C'était Mimi and Cookie dès le début.
Tu sais, donc entre 2019 et 2021, j'ai eu 2 boîtes et 2 bébés.
Et 2 bébés.
Donc ça a été condensé, et en plus, tout ça sur fond de Covid, tu vois. Donc...
Eh mais c'est un cocktail Molotov.
Et ouais, donc, franchement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est.
Du coup, comment ça s'est passé ? Tout ça, comment t'as géré ? Comment ça s'est fini ?
Ah alors tu vois déjà la grossesse de mon premier, c'était pas attendu comme ça. Sur le coup, je suis un peu genre ouais bon, tu vois, j'appréhende un peu le truc parce que j'avais pas prévu de base. De tomber enceinte aussi vite. J'étais pas prête. C'était pas un début de grossesse calme. Enfin, tu vois, j'ai eu un peu peur. Après, la grossesse s'est passée et s'est bien passée, ouais. Je me suis pas ménagée. Donc, ça, grosse erreur aussi. Tu vois, j'aurais dû vraiment ménager, faire attention, m'arrêter. J'ai arrêté de bosser hyper tard. Parce que
Ouais.
comme j'ai ouvert une seconde société en même temps, je disais à mon associé, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, je gère, je peux t'aider jusqu'au bout. Et en fait, j'aurais peut-être dû me reposer. Quand j'ai commencé à avoir des contractions la veille au soir, j'étais encore avec mon associé en train de bosser, quoi. Il est arrivé, et en fait, dans les jours qui suivent, j'ai voulu allaiter mon fils, mais j'avais pas de lait. La fille qui s'occupait de moi, vraiment pas sympa. Elle m'avait mis au tire-lait et en fait, elle avait mal réglé et elle m'avait pas aidée. Et du coup, j'avais trop mal, j'avais quasiment pompé pas de lait. Et tu vois, déjà à l'hôpital, ils te font remplir un petit test pour voir quel est ton niveau de morale un peu, tu vois. On dit qu'il y avait quand même du moyen. Et du coup, ils nous avaient remis des lettres pour donner au généraliste, à ta gynéco et tout ça, et à la sage-femme. Et j'ai donné le papier à ma généraliste. Elle le lit juste avant de partir, et là, elle me dit, alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je me rassois, tu vois, genre, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle me dit, ça va? Bah, comment dire, ça va? Bah, je dors pas trop, enfin, je me remets d'un accouchement, enfin, il y a plein de choses, quoi, tu vois. Et en plus que, donc, j'avais deux boîtes et que je me disais qu'il fallait que je reprenne vite, vite, vite le boulot. Tu vois, moi, dans ma tête, je me disais, mon fils, il faut, dès que mon mari reprend le boulot, moi, je reprends aussi le boulot, en fait, à la maison avec un nouveau-né, tu vois, alors que je suis censée être en congé maternité. Grosse erreur. En fait, ma médecin, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui dis, bah voilà, c'est compliqué. Elle me dit, non, mais vous vous rendez compte que vous êtes en congé maternité et que techniquement, vous ne devez pas bosser, vous ne pouvez pas bosser avec un nouveau-né. Je me rends compte que mon plan initial ne marchera pas, mais je vais mettre des stratagèmes en place pour pouvoir bosser, quoi. Mais bien
Je vais me lever plus tôt, je vais dormir plus tard, je sais
c'est
pas,
ça. Non, mais franchement, c'est un peu ça, tu vois. Donc, en fait, j'ai essayé de bosser, mais c'était compliqué. Donc, il était en portage tout le temps sur moi. Et lui, par contre, dès qu'il pleurait, enfin, dès qu'il avait faim, il hurlait. Mais même limite me nourrir, tu vois, c'était compliqué. Et donc, je sentais qu'en fait, ça allait pas. J'appelais mon mari aussi pour qu'il rentre plus tôt du boulot parce qu'il y avait des journées, il y a des journées plus compliquées que d'autres, hein, pour qu'il vienne s'occuper du petit parce que moi, je pouvais plus, quoi.
Franchement, ça reste difficile.
Bah
Parce
ouais.
que je te dis, toi, tu dois récupérer. T'es en convalescence en réalité. Après un accouchement, t'es
Mais c'est ça.
considéré en... Ouais, t'es
Tu
considéré en
vois, il y avait
convalescence.
tous les rendez-vous aussi que tu dois faire pour ta rééducation du périnée et abdominale. Et du coup, je devais y aller bah, toute seule, hein, comme beaucoup de mamans. Et ça, c'était une torture. J'avais pas envie d'y aller, tu vois. J'avais juste envie de pleurer et de pas y aller parce que j'y arrivais pas.
Ouais.
Enfin, c'était hyper difficile. Et franchement, tous les soirs, je disais à mon mari, non, mais là, c'est pas possible, je vais me suicider, quoi. Enfin, j'étais en boucle. J'ai dit à mon mari, faut qu'on se barre en vacances parce que là, moi, j'en peux plus. Je tourne en rond, je vais devenir folle, tu vois. Et j'étais tellement mal, j'osais même pas demander à mon associé de partir en vacances, tu vois, une semaine parce que je me sentais déjà tellement coupable de l'avoir laissé, entre guillemets, autant de temps toute seule, gérer la boîte, sans moi et sans me faire remplacer, que je me disais, non, mais faut que j'y retourne. Et à la fois, je me voyais pas y retourner parce que j'étais vraiment dans un état. Je te jure, vraiment pas bien, quoi. Et ça m'a permis, tu vois, de retrouver le sourire, tu vois, d'aller mieux quand même. Tu vois, ça m'a permis d'aller mieux. Mais le truc, c'est que quand on est rentré, eh ben en fait, on s'est retrouvé en plein Covid. Tu vois, moi qui me faisais une joie de reprendre le travail, de reprendre un peu une vie, eh ben en fait, paf, non, tu vas rester à la maison. Voilà. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que mon mari, lui, il est tombé en dépression parce que lui, il a perdu son papa 2 mois avant que j'accouche. Donc je fais rien, donc je le laisse lui se soigner et moi je me soignerai après. Et en mode ça ira vite,
Oui.
évidemment. Bien sûr que non. Donc énorme erreur et donc du coup c'était très très compliqué parce que pendant le confinement on a quand même eu des moments de repos parce qu'on bossait moins du fait que de toute façon voilà les activités tournaient au ralenti. Il s'impliquait dans son rôle de père mais pas totalement et donc il me laissait encore beaucoup faire et du coup il me délaissait beaucoup de charges, c'était à moi de gérer, à moi de prendre les décisions pour tout. On a fait nos vacances en France l'été. Ça a été très très compliqué les vacances. Moi j'étais toujours pas bien, clairement toujours pas bien, et je demandais à mon mari de l'aide Et en fait, ils me l'apportaient pas. Je continuais à bosser. Alors, l'avantage, c'est que j'aimais bien quand même mon boulot. J'avais des stagiaires qui étaient là, tu vois, pour aider. Et j'avais quand même mon associé aussi qui était là. Et du coup, on avait des projets ensemble. Et du coup, ça permettait quand même d'avoir quelque chose de plaisant.
Positif, ouais, ça nourrissait quelque part, quoi. Ça te nourrissait
Ouais.
quelque part.
J'étais toujours pas bien. Je me suis laissée couler. Et en fait, je suis retombée enceinte. Tu vois, mon fils avait même pas encore un an. Et ça, c'était pas prévu au programme non plus.
Ouais.
J'aime
Sachant que t'es
autant.
toujours pas soignée, entre guillemets, t'es toujours pas
Pas
prise
du
en
tout.
charge, que
Rien.
le postpartum, il se passe toujours aussi mal. Donc,
Ouais.
ouais, c'est ajouter de l'huile sur le feu, au final.
Carrément. Ah ben, carrément. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, et mon mari il était super heureux, et moi, je l'étais pas. Tu vois. Moi, je l'étais pas. Et j'étais là, non, mais c'est pas le moment. Tu vois, c'est pas le moment parce que bah, déjà, je suis pas bien. Ensuite, c'est pas le moment parce que bah, je viens de rentrer au boulot, entre guillemets, avec mon associé au mois de mars. On est quand même en période Covid. On sait à quel point pour les sociétés c'est difficile. Et là, je retombe enceinte. Et je vais devoir dire encore une fois à ma pauvre associée, meuf, je suis de nouveau enceinte.
Du
Dans un
coup, là,
truc.
tu accouches, tu rentres à la
Du
maison avec un nouveau bébé, ça se passe
coup.
comment?
Bah, alors, du coup, tu vois, pendant mon suivi de grossesse, quand j'ai eu mon premier rendez-vous à l'hôpital, le sage-femme, il pose plein de questions. Tu sais, genre, est-ce que c'était voulu comme grossesse? Et là, je lui dis non. Et là, tu vois, il me dit, genre, ça va? Et là,
Asseyez-vous,
je
madame.
commence. Ouais, c'est ça. Et là, je commence à pleurer, tu vois. Et là, il me dit, waouh. Tu vois, il me dit, je peux vous proposer, c'est d'aller voir la psychologue de l'hôpital. Alors, il n'y a pas de rendez-vous tout de suite parce qu'elle est fort prise, mais je pense que ça serait bien. J'étais là, ouais, je pense que ça serait bien, mec. Du coup, il m'a mis un rendez-vous et j'ai eu un rendez-vous, je crois, 2 mois après. Et j'ai été suivie par cette psychologue de l'hôpital. Et heureusement, tu vois, et très, très bien. Et ça m'a permis d'anticiper la suite. Et du coup, j'ai accepté l'arrivée donc de mon deuxième fils, Luc. Et j'ai fait aussi un suivi individualisé avec une sage-femme. J'ai bien été suivie à l'hôpital par du coup une autre psychologue qui elle fait du domicile. Cette psychologue-là, elle est venue toutes les semaines à la maison après qu'on soit rentré. Et tu vois, ça m'a vachement aidée à.
Ouais.
Bah, j'étais rassurée en fait. J'étais rassurée d'avoir quelqu'un avec moi, d'avoir quelqu'un qui parlait, d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Et en fait, parce que j'avais tellement peur. De stress, en plus avec le premier, tu vois, j'avais peur pour le premier. Est-ce que je vais le laisser? Est-ce qu'il va pas se sentir ceci? Est-ce que cela, machin? Et en fait, elle m'a dit, vous avez des peurs là irrationnelles. Et du coup, elle m'a aidé à reprendre le chemin, normal. Et surtout, bah là, je suis passée à travers, j'ai pas refait de dépression du postpartum, tu vois. Je sais plus, elle a arrêté de me voir au bout d'un ou 2 mois. Après que je sois rentrée à la maison, elle m'a dit, là, vous êtes passée à travers. Donc, c'est bien. Vous allez bien. Elle dit, par contre, je sens que vous avez toujours un problème. C'est avec votre mari. Ça va toujours pas. Ça va toujours pas. Et ça me minait d'une force. Mais laisse tomber parce que lui, il prenait pas non plus son rôle de père, de mari. Donc, je devais encore tout gérer. Encore tout gérer, donc gérer toujours 2 boîtes, gérer 2 bébés. Donc je suis sortie, je ne fais pas de dépression postpartum, mais je vais quand même toujours pas bien, tu vois. Toutes mes copines qui m'aidaient, elles m'ont dit non, mais là, faut que vous alliez voir un psychologue de couple, quoi.
Du coup, à quel moment est-ce que tu as arrêté de parler de dépression postpartum et plutôt de burn-out?
La psychologue qui m'a suivie à l'hôpital avant que j'accouche, elle me disait tout le temps, parce que j'avais beaucoup de difficultés, tu vois, je pense que le burn-out, c'était. Je pense que c'était les prémices, tu vois, parce qu'elle me disait à chaque fois, vous avez plein de ressources, vous avez plein de ressources. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai, j'ai plein de ressources, mais j'ai arrivé au bout de mes ressources. Tu vois, elle me disait, vous avez encore plein de ressources, ça va aller, vous allez vous en sortir, tu vois. Et mais je sentais que c'était le bout de mes ressources et que je pourrais pas faire plus. Et que là, il faut que mon mari aussi prenne en main pour faire plus. Parce que là, moi, je vais pas y arriver. Et en fait, c'est quand on a commencé le psychologue, enfin la psychologue de couple, que en fait c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoutez, moi ça va pas, enfin ça va pas, et c'est là, c'est elle qui m'a dit, vous êtes en burn-out en fait. Oh, le fait d'entendre ça, tu vois, c'est hyper dur parce que tu te dis non mais C'est pas possible, quoi.
J'ai pas fini, quoi.
Ouais, c'est ça. Je sors d'une dépression postpartum. J'ai un deuxième bébé. J'espère que ça va mieux, tu vois. On met un truc en place avec mon mari. Et en fait, non, ça va toujours pas mieux, tu vois. Enfin, et je lui disais, mais je sais pas comment faire. Je te jure, je lui disais, je sais pas comment m'en sortir. Elle m'a dit, bah, faut laisser du temps. Autant. Et du coup, moi, je laissais et je me disais qu'il y avait, tu sais, que la thérapie de couple qui nous manquait. Tu vois,
Oui.
je me disais pas encore, je vais me faire soigner moi toute seule, tu vois.
Ouais.
Et je me disais, ça va aller.
Et
Mais tu
c'était quoi
vois,
du coup le signal d'alarme? Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait dire
et bah, c'est arrivé
que...
au mois de mai. Mais mon mari m'a organisé une surprise pour mon anniversaire. Donc, il avait réservé une nuit dans un bel hôtel à Lille, tu vois. Il avait fait garder les enfants par mes parents. Donc, voilà, beau resto, bonne soirée. Enfin, tu vois, truc cool, tu vois. Et en fait, le lendemain, je vais au boulot. Ouais, le lendemain ou 2 jours après, je vais au boulot. Et une de mes collègues, elle me dit, alors, c'était bien ton anniversaire? Ouais, tu vois, je dis, bah ouais. Tu vois, je me dis, pourquoi elle me demande ça? Et elle me dit, bah alors, c'était bien, t'as fait quoi? Parce qu'elle était au courant, elle était dans la confidence. Et je lui dis, bah, rien de spécial, tu vois. En fait, je me souvenais de rien. Je me souvenais de rien. J'étais passée à autre chose. Je me souvenais plus de ce que j'avais fait. Je me souvenais plus de ce que mon mari avait organisé. J'avais tout oublié. Et là, ma copine, tu vois, elle m'a mis la main sur l'épaule et elle m'a dit, écoute, Charlotte, je crois que ça va pas. Je crois vraiment qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un là parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Tu prends goût à rien. T'as oublié un truc qui, sur le papier, est super bien. Et c'est à partir de ce moment-là, tu vois. Donc, je parle de ça
On est
en
en
mai 2000,
2022 quasiment,
on
non?
est en de, on est en 2022. On est en mai 2022. Tu vois, je me suis traîné ça hyper longtemps, hyper longtemps.
Il y a
Et
eu quand
c'est...
même beaucoup de choses, que ce soit sur le plan professionnel et ou personnel, il y a eu quand même énormément de choses. Pour
Ben,
quelqu'un
c'est
qui n'est
ça.
pas suivi de base ou qui n'a pas déjà cette notion de phase de récupération, de stress, de burn-out, voilà, qui n'a pas les fameuses routines self-care, qui ne se pose pas,
Ah
qui
ouais,
n'a pas
pas du tout de
les...
routine self-care, mais alors là, pas du tout, mais pas du
Je veux dire, dans tous les cas, même la personne la plus costaud, si tu lui donnes deux boulots en plus indépendants, donc ça reste quand même,
Ouais,
ça a son
bah
lot de
fragile
stress.
quoi, tu
Bah
vois?
oui.
Ouais,
Donc
c'est ça.
il y a tout pour finir en burn-out en réalité. Surtout pour quelqu'un qui, voilà, de base n'a pas les
Ah
bonnes
mais...
bases. Voilà,
Ah
n'a
bah
pas les
non,
bonnes
aucune
bases.
base, je te jure, aucune base. De toute façon, moi, je me suis toujours fait passer après, et c'était ça aussi l'erreur. Toi, par exemple, le matin, bah déjà, quand on était en Covid, je me levais tous les jours à 5 heures du mat, tu vois, pour travailler avant que mon fils soit toute la journée avec nous. Rien que le week-end, bah, je me lève tôt parce que je suis une lève-tôt, mais tu vois, je me dépêchais de prendre ma douche en 2-2, je prenais pas le temps de me sécher les cheveux, de me coiffer, de mettre une crème, quoi que ce soit, je ne prenais pas de temps pour moi, pour me dépêcher, pour aller gérer les enfants, pour que mon mari, lui, puisse prendre son temps tranquillement. Et ça, c'est une grosse connerie, en fait.
Bah, c'est
On doit
clair,
se
c'est du
partager les
sacrifice
trucs.
de soi là. On n'est plus dans la bienveillance ou je sais pas quoi, là, c'est on
Ah
se
non, mais pas du
sacrifie pour
tout.
les autres.
Et j'ai commencé à reconstruire, du coup, sur tout ça, et donc à prendre du temps pour moi, tu vois, et demander de l'aide quand il faut, et déposer aussi les enfants de temps en temps pour avoir du vrai temps de qualité.
Donc
Mais
aujourd'hui,
là.
tu dirais quoi? Tu fais quoi maintenant pour bah déjà continuer à te reconstruire et surtout éviter de retomber dedans? Parce que c'est un piège. Des fois, on croit que ça va, c'est bon, ça va. On lâche tout ce qu'on a mis en place
Ouais,
et bim,
non.
allez, on remet la tête
Non.
dedans et c'est
Ouais,
reparti.
c'est ça. Et là aussi, c'est re-erreur. Bah non. Du coup, tu vois, j'ai continué de voir cette psychologue et j'ai bientôt terminé. J'ai vu quelqu'un, une spécialiste en hypersensibilité. Du coup, il y a encore, tu vois, j'ai appris des choses sur moi. Et du coup, le champ des possibles s'est ouvert. Et du coup, j'ai consulté une coach en hypersensibilité pour pouvoir appréhender ça et bien le vivre, tu vois, et décortiquer des choses. Si je suis fatiguée une journée, eh ben, je prends ma journée. Si j'ai besoin de me poser 2 heures, eh ben, je me pose 2 heures. Alors qu'avant, je ne le faisais pas. Hein. Je bossais de 8 heures jusqu'à 18 heures non-stop. Enfin, tu vois, parce que pour moi, c'était inconcevable d'arrêter de bosser. Maintenant, je le fais. Manger tranquillement. Se prendre du temps avec mon mari. Donc, on prend des petites nounous qui gardent les enfants. J'ai plus de stagiaires à la maison. Comme ça, j'organise mon planning comme je veux. Alors, j'ai certes moins d'aide, tu vois, sur mon travail, mais au moins, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et d'avoir cette liberté d'esprit aussi, tu vois, c'est quand même énorme. Et ça m'a permis de vachement souffler. Et je me mets plus la pression sur mon travail. Parce qu'avant, il y avait vraiment une pression du chiffre et tout ça. Et une pression aussi de toujours produire plus, tu vois, d'apporter. Mais je le fais plus. Ça, je le fais plus. Je me mets plus, en fait, des objectifs inatteignables au détriment de ma santé.
Ouais.
Ça, c'est
tu priorises, quoi. Maintenant, tu fais ce qui est important.
C'est ça.
Et le reste, soit tu délègues, soit tu supprimes. Ouais, y a pas
c'est
de...
ça.
Moi, je dis souvent à mes clientes, tu auras toujours 24 heures quoi qu'il arrive. Dans tes 24 heures, une fois que tu as enlevé le dodo, le repas, la douche, l'aller-retour, la blabla, il va te rester un quota. Et dans ce quota-là, en fait, tu ne peux pas faire de l'impossible.
C'est ça.
Tu es obligé de prioriser et tu es obligé de déléguer si tu veux en tout cas prendre soin de ta santé mentale.
C'est ça.
Après, voilà, tu peux te suradapter, te surengager comme tu as fait, mais sache que ça finit forcément droit dans le mur.
C'est ça, ça ne marche pas en fait. J'ai aussi un copain proche qui est un peu passé par ce genre de phase. Et lui aussi, il n'avait plus envie de rien. À un moment donné, il m'a dit, écoute Charlotte, en fait, tu sais plus ce que t'es, enfin, tu sais plus ce qui peut te donner envie.
En fait.
Il m'a dit, mais essaye. Il n'y a qu'en essayant, en te remettant en marche, que tu verras si ça te plaît ou pas.
Du coup, ce serait le conseil que tu donnerais à une nana du coup, qui est dans la phase
Déjà,
où tout va mal et qui nous écoute. Tu lui dirais quoi?
Je lui dirais que déjà, tout passe. Quand tu es au début du tunnel, tu as l'impression que tu ne vas jamais voir la lumière au bout et que tu ne t'en sortiras pas, mais tout passe. Il faut prendre soin de soi. Il faut vraiment en parler, libérer la parole, aller consulter des professionnels pour qu'ils puissent t'aider. Et même s'il faut prendre des cachets pendant un temps, faut pas hésiter parce qu'en fait, comme elle m'a dit, ma médecin généraliste, c'est une béquille le temps que ça aille mieux. Enfin, tu vois, parce que pour moi, c'était une honte aussi éventuellement de prendre un cachet. Et en fait, vraiment, mon ami proche et tout ça, il m'a dit, mais prends-le, Charlotte. Enfin, et ça t'aidera même à voir plus clair et à résoudre certains problèmes avec ta psy ou ta coach et t'avanceras mieux. Et au moins, ça sera débloqué. Tu vois et,
je dis souvent, quand tu te fractures quelque chose, on te donne la béquille pour te permettre de faire des trucs, de continuer à être en mouvement malgré la fracture. Des fois, médicament, il va te permettre de te mettre en mouvement. Et ensuite, le but, c'est de réduire les doses jusqu'à l'arrêter. Mais parallèlement, c'est parce que tu as bossé sur toi, tu as revu tes blocages, tu as mis en place les bonnes habitudes, tu as revu ton alimentation, blablabla, blablabla. On ne va pas attendre sous la couette pendant je ne sais pas combien de temps.
Non.
Le temps que ça aille mieux, parce que ça n'ira pas mieux.
Non, ça n'ira pas mieux. Spoiler alert, ça n'ira pas mieux. Non, mais voilà, tu vois. Oh mon Dieu.
Donc, non, mais... t'as bien raison.
Et je pense qu'il faut grave libérer la parole, tu vois, parce que quand j'ai libéré la parole, même auprès d'amis, tu vois, ils m'ont tous dit, et pourquoi tu n'en as pas parlé? En fait, on peut t'aider, on peut garder les enfants.
En fait, on est plein de préjugés.
Ouais.
On part du principe qu'on va être jugé, mais en réalité, on est les premiers jugeants, entre guillemets, tu vois.
Mais c'est ça. Et en fait, pas du tout, tu vois, ils m'ont tendu la main. En fait, c'est ça.
Et qui nous écoute, sache que tu es peut-être dans cette phase où tu as l'impression que tout le monde va te juger et te prendre pour une fragilus. Et tu es dans cette honte et cette culpabilité. Mais non, sache que si tu en parles, après, tout dépend. Hein, tu tomberas toujours sur un connard ou...
C'est ce que j'allais dire. Il y en a forcément.
Il y aura forcément une petite tache noire là que tu as envie d'effacer. Mais sinon, normalement, dans ton environnement, il y a au moins une personne à qui tu peux parler et à qui tu peux dire les choses, histoire d'être aidée, ça c'est clair. Ouais.
C'est ça, et même si cette personne elle peut pas t'aider directement, peut-être qu'elle te donnera des adresses, tu vois.
Ouais. Non, il faut sortir du repli sur soi, il faut sortir de l'isolement, il faut en parler, ça c'est une certitude. Parce que dans ton coin, tu ne vas pas avancer.
Non.
Et plus t'en parles, plus... on te recommandera des solutions ou même on te conseillera, tu vois. Après, il vaut mieux aller voir des professionnels. Les amis sont là surtout pour l'écoute. Il faut les deux, en fait. Plus t'en as, mieux.
C'est ça. Tu vois, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Depuis le moment où j'ai été prise vraiment en charge, ça a été relativement vite, tu vois, un an. Et en fait, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dommage, tu vois,
Non, mais la
de perdre du
combinaison
temps,
coach
quoi.
et psy, elle est vraiment, vraiment intéressante. Moi, ça, je le vois
Ouais,
avec mes
on n'a
clients.
pas vu du tout la même chose, hein.
Oui, non,
Non.
non, on ne fait pas du tout le même travail. Mais je le vois avec les filles que j'accompagne, celles qui ont un psy en parallèle, elles vont
Ouais.
beaucoup plus vite que celles qui n'en ont pas. Ça,
Ah bah ouais, ça c'est
c'est un
sûr.
constat, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage.
Bah de rien. Écoute, ça a été plus facile que ce que je pensais.
Ouais.
Non mais
Comme
vraiment,
quoi,
je te
et,
jure.
mais ça, c'est la preuve que tout le travail que tu viens de faire
Ouais.
de courant cette année, tu as accepté tellement ta situation que finalement, tu en parles bah, avec aisance, quoi. Tu
Non.
es à l'aise avec ce que tu as vécu et tu es à l'aise avec ce que tu as mis en place et tu es à l'aise avec qui tu es
Ouais.
aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le travail avec les professionnels. Il n'y a pas de
Ouais.
secret.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Écoute, je suis contente de partager mon expérience et j'espère surtout que ça va en aider d'autres à prendre des décisions et à aller de l'avant et
Ah,
de
ça va
voir cette lumière au
inspirer.
bout du tunnel.
Regarde, je
Tu
t'ai mis la
vois?
lampe torche là, tu la
Ouais,
vois?
c'est ça. Ouais, ça va bien se passer.
Non, c'est le but de ces interviews, c'est vraiment d'inspirer, d'encourager et ouais, de rassurer, de réconforter, de dire même si
Ouais.
tu es au fin fond de ton puits là, au fin fond de ton trou, sache que il y a moyen,
Bah,
il y a
ça va aller.
moyen, il
Ouais.
y a des solutions et on en sort généralement bah, mieux, tu vois, on
Grandi
sort
aussi,
grandi
ouais.
et plus riche et plus forte et on apprend à mieux gérer nos événements indésirables,
Personnel.
parce qu'il y en
C'est ça.
aura toujours.
Ouais, les petites. Ouais, c'est ça, toute notre vie. Et oui. Et oui. Spoiler
Bah,
alerte ici, tu vois. Toute notre vie.
je te fais plein de bisous. Je te dis prends soin
Ouais,
de
merci.
toi. Bisous aux Gremlins.
Moi
Et puis
aussi,
à
ouais,
bientôt.
les petits gremlins.
Salut.
Allez-y.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci plus pour ton écoute. Je serais vraiment ravie d'avoir ton retour, que ce soit un avis sur la plateforme d'écoute ou même sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et ce qu'il a généré, ce qu'il a activé en toi. En tout cas, pour soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un témoignage sur la plateforme d'écoute ou me mettre 5 étoiles aussi, surtout pour celles qui écoutent sur Apple Podcast. Tu peux partager le podcast, comme on dit, libérer la parole, histoire que les femmes voient que d'autres personnes traversent la même chose qu'elles et qu'elles s'en sortent et qu'en fait elles ne sont pas folles, mais c'est un état tout à fait légitime. Si tu veux échanger, eh bien je t'encourage vraiment à rejoindre ma safe place, comme ça on n'est pas obligé de passer par un réseau social. Et sinon, eh bien je te dis, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.